Vous êtes avec SBS French.
À la une de l'actualité de ce mardi 16 avril, l'agression au couteau hier soir d'un évêque d'une église orthodoxe dans l'ouest de Sydney constitue un acte terroriste. C'est ce que déclarent aujourd'hui la police et les services de renseignements australiens. Concernant l'attaque de samedi à Bondi Junction, Damien Guéraud, le jeune Français qui s'est interposé face à l'assaillant dans un escalator, peut rester en Australie autant qu'il le souhaite. C'est la promesse que lui a faite aujourd'hui Anthony Albanese. Et puis la grande barrière de corail n'est pas le seul récif corallien dans le monde à être actuellement frappé par une vague de blanchissement massif. Des scientifiques estiment en effet que le réchauffement des océans affecte en ce moment tous les coraux de la planète. L'attaque au couteau lundi soir de l'évêque d'une église orthodoxe de la communauté assyrienne dans l'ouest de Sydney est considérée par les autorités comme un acte terroriste. L'auteur, un jeune homme de 16 ans, a été placé en garde à vue hier soir après avoir blessé 4 personnes, notamment l'évêque qui officiait à l'intérieur de ce lieu de culte. L'attentat a été diffusé en direct sur les réseaux sociaux. Et le travail des services de renseignement, selon leur directeur général Mike Burgess, va désormais consister à définir si la menace est éteinte avec cette arrestation ou si il a potentiellement d'autres complices.
It does appear to be religiously motivated, but we continue our lines of investigation. At the same time, our job is also to look at individuals connected with the attacker to assure ourselves that there is no one else in the community with similar intent. At this stage, we have no indications of that, but it is prudent that we do this to determine there is no threats or immediate threats to security. At this time, we're not seeing that.
Précisons que les 4 personnes qui ont été blessées ont été hospitalisées, mais devraient s'en sortir. Ils n'ont que des blessures légères. Mais il faut ajouter également que cette interpellation, qui a pu se faire sans tuer l'assaillant, a été particulièrement mouvementée, puisque dans les minutes qui ont suivi l'attaque, des centaines de personnes se sont rassemblées autour de cette église, empêchant les policiers d'exfiltrer le suspect. 2 policiers ont d'ailleurs été blessés au cours de ces échauffourées. Ce matin, Anthony Albanese, le Premier ministre, a appelé la population au calme et surtout à résister à l'envie de rendre justice soi-même.
Can I say that we understand the distress and concerns that are there in the community, particularly after the tragic event at Bondi Junction on Saturday. But it is not acceptable to impede and injure police doing their duty, or to damage police vehicles in a way that we saw last night. People should not take the law into their own hands, but should allow our police and our security agencies to do their job.
Les autorités précisent enfin que cet attentat ne semble pas lié à l'attaque qui a eu lieu samedi à Bondi Junction. Un épisode sur lequel est également revenu Anthony Albanese, le Premier ministre, dans sa conférence de presse. Il a cité nommément celui que la presse australienne a baptisé l'homme au poteau. C'est ce jeune Français, Damien Guéraud, qui s'est interposé face à l'assaillant dans un escalator. Eh bien aujourd'hui, Anthony Albanese lui a adressé un message personnel.
I say this to Damien Guéraud, who is dealing with his visa applications, that you are welcome here, you are welcome to stay for as long as you like. This is someone who we would welcome becoming an Australian citizen, although that would of course be a loss for France. We thank him for his extraordinary bravery.
Après avoir été débouté de sa plainte en diffamation contre la chaîne Ten et la journaliste de l'émission de Project Lisa Wilkinson, Bruce Lerman pourrait devoir rembourser leurs très onéreux frais de justice. Ce jugement qui ne portait que sur le volet civil de cette affaire, mais pour la première fois, un tribunal a estimé que Bruce Lerman était bien coupable d'avoir violé Brittany Higgins à l'intérieur du Parlement en 2019. Ils étaient à l'époque tous deux assistants ministériels au sein du gouvernement de Scott Morrison. Et puis à Alice Springs, le couvre-feu instauré il y a près de 3 semaines a été levé. Il interdisait aux mineurs de se rendre dans le centre-ville entre 6h du soir et 6h du matin, à moins d'être accompagné par un adulte ou d'avoir un motif valable pour être dans le secteur. Cette décision avait été prise après une série d'altercations violentes. 35 policiers supplémentaires et des travailleurs sociaux restent déployés sur place pour aider les familles. 4 soldats israéliens ont été blessés hier au Liban suite à une attaque aux engins explosifs revendiqués par le Hezbollah, un groupe soutenu par l'Iran. À Beyrouth, les précisions de Paul Khalife pour RFI.
La bombe a été actionnée par le Hezbollah alors que la patrouille se trouvait à plusieurs centaines de mètres à l'intérieur du territoire libanais. Ce n'est pas la première incursion israélienne au Liban depuis le début des affrontements avec le Hezbollah le 8 octobre. Le parti de Hassan Nasrallah a annoncé avoir déjoué 2 tentatives d'infiltration ces derniers mois. Israël n'avait pas commenté ces informations. Lors de ces incursions, les Israéliens procèdent à des repérages et des reconnaissances sur le terrain. La destruction par le Hezbollah d'une grande partie des systèmes électroniques d'écoute, de surveillance et d'alerte installés le long de la frontière a privé l'armée israélienne de ses yeux et de ses oreilles. Pour pallier cette insuffisance, les Israéliens ont recours aux drones et aux patrouilles au sol. Cette dernière option est risquée, car le Hezbollah a posé des charges explosives et des mines le long de la frontière, et sa force d'élite Ar-Radwan est déployée parfois à quelques centaines de mètres seulement de la clôture. Fin mars, 3 observateurs de l'ONU et leur traducteur libanais avaient été blessés dans une explosion dans le sud du Liban. L'enquête onusienne et celle de la justice libanaise avaient conclu à une mine posée par le Hezbollah selon Israël. Le parti chiite n'avait pas commenté l'incident. Paul Khalife, Beyrouth, RFI.
En Ukraine, la bataille de Tchassivar a commencé. L'armée russe est arrivée aux portes de cette ville du Donbass, une commune clé pour contrôler l'ensemble de la région administrative du Donetsk. Un nouveau front constituant la 3e bataille majeure pour les troupes ukrainiennes à Kiev, Stéphane Sion pour Radio France Internationale.
Certains l'appellent déjà la bataille des 3 ponts, les 3 ouvrages ferroviaires et routiers à l'est de Tchassiviar, au niveau desquels l'infanterie russe est déjà arrivée. Tchassiviar est une petite bourgade peuplée par 13 000 habitants avant-guerre, à première vue insignifiante mais d'une importance stratégique de premier plan lorsqu'on regarde les cartes en relief détaillées, car Tchassiviar est située sur une hauteur rare dans le Donbass et elle domine les axes routiers menant à Kramatorsk et à Slaviansk, les dernières grandes villes du Donbass ukrainien. Si Kiev perd Tchassiviar, l'Ukraine pourrait se retrouver en grande difficulté en vue de conserver des territoires dans le Donbass. Tchassiviar est pilonné par la Russie depuis la bataille de Bakhmout il y a 1 an, mais cette fois, les chars et les fantassins russes sont aux portes de la ville, dans un contexte très difficile pour l'armée ukrainienne qui manque dramatiquement de munitions et de systèmes de défense antiaérienne. L'armée ukrainienne a envoyé des renforts pour tenir Tchassiviar. Le Kremlin a quant à lui donné l'ordre à ses troupes de prendre la ville avant les célébrations du 9 mai. Ce qui est d'ores et déjà certain, c'est que dans quelques semaines, il ne restera plus grand-chose du Tchassiviar d'avant-guerre promis à la destruction. Stéphane Siouan, Kiev, RFI.
Aux États-Unis, l'armurière présente sur le tournage du film Rust, durant lequel Halina Hutchins, la directrice de la photographie, a été tuée par un coup de feu tiré par l'acteur Alec Baldwin, a été condamnée à 18 mois de prison pour homicide involontaire. Elle avait accidentellement chargé l'arme utilisée dans le film par l'acteur avec une balle réelle, une responsabilité à laquelle Halina Hutchins a essayé d'échapper d'après le juge qui a rendu le verdict.
The word remorse, a deep regret, coming from a sense of guilt for past wrongs. That's not you. Your hereby sentence as follows stand. I am sentencing you to 18 months of incarceration at a New Mexico Women's Correctional Facility. I find that what you did constitutes a serious violent offense. It was committed in a physically violent manner, a fatal gunshot done with your recklessness in the face of knowledge that your acts were reasonably likely to result in serious harm.
Un autre procès très attendu s'est ouvert hier à New York, celui de l'affaire Stormy Daniels, dans le cadre de laquelle Donald Trump est soupçonné d'avoir acheté le silence de cette ancienne star du X. L'ancien président, comme à son habitude, a dénoncé une persécution politique. Il va même jusqu'à dire que ses poursuites judiciaires sont une attaque contre l'Amérique. À New York, les précisions de Guillaume Nodin pour RFI.
L'ancien président est arrivé peu avant 9h30 local au tribunal par une petite rue de côté. Dans l'entrée empruntée par Donald Trump, il est écrit en lettres d'or le nom d'Alvin Bragg, celui du procureur de l'État de New York qui le poursuit pour 34 chefs d'inculpation, correspondant à 34 chèques différents pour un montant de 130 000 dollars de paiement. Dans l'État de New York, c'est un crime passible de 4 ans de prison. Pour Donald Trump, le dossier est vide et il n'y a même pas d'affaire. Ce procès, comme les trois autres inculpations au pénal, tient pour lui de l'escroquerie et de l'interférence électorale. Dans la salle d'audience, où il a montré un visage dont on ne sait s'il est simplement grave, sérieux, inquiet ou de défi, la matinée a été consacrée à l'examen des différentes motions de procédure. Le juge Merchant, qui supervise l'affaire, a notamment refusé de se récuser, comme le réclamait l'équipe des avocats de l'ancien président, en l'accusant de conflit d'intérêts. Une façon, selon le juge, de faire traîner la procédure. Ce qui risque d'être un peu long aussi, c'est la sélection du jury. Elle a commencé, il faut en trouver 12 jurés plus 6 remplaçants qui soient à peu près neutres. Étant donné la notoriété et la personnalité clivante de l'accusé, cela pourrait être compliqué. Guillaume Nodin, New York, RFI.
C'est malheureusement désormais officiel, les températures records enregistrées récemment dans les océans sont à l'origine d'un quatrième épisode de blanchissement du corail d'envergure planétaire. C'est ce que viennent de déclarer des scientifiques américains, et ce au moment même où la Grande Barrière de Corail subit elle-même actuellement une cinquième vague de blanchissement en à peine 8 ans. Comme le rappelle Derek Manzello, ce stress thermique affecte les récifs coralliens non seulement dans le Pacifique, mais aussi dans les océans Indien et Atlantique.
This announcement is really saying, you know, hey, this is a big warning call that, you know, marine health, ocean ecosystems are suffering because the oceans are warming at such an alarming rate that it's causing these devastating impacts to tropical marine ecosystems.
Un mot d'économie pour parler du constructeur et automobile Tesla, dont le PDG Elon Musk a annoncé que plus de 10% de ses employés dans le monde allaient être licenciés, soit au moins 14 000 personnes qui vont perdre leur travail. Objectif pour le PDG, réduire les coûts, alors que la demande mondiale pour les véhicules électriques tend à ralentir. Mais aussi que Tesla est de plus en plus confronté à de la concurrence, notamment à concurrence de constructeurs chinois. La France a rendu hier un hommage national à la romancière Marie Condé, décédée il y a quelques jours à l'âge de 90 ans. Cette dernière s'était battue toute sa vie pour l'indépendance de son île natale, la Guadeloupe. Retour sur cet hommage avec Édouard Sadaka pour RFI.
C'est par la lecture de 4 textes de Maryse Condé qu'a débuté cette cérémonie d'une heure environ, extrait notamment de son autobiographie « La vie sans phare ». Et avant la prise de parole d'Emmanuel Macron, c'est une chanson, la chanson « L'hymne à l'amour » d'Édith Piaf, qui a été interprétée a cappella par la jeune chanteuse Laura Cluzel.
Et la terre peut bien s'écrouler.
Elle vivait dans l'amour inconfortable de la Guadeloupe, dans l'attachement intranquille à la France. C'est avec ces mots que le chef de l'État a évoqué la mémoire de l'écrivaine, en mettant notamment l'accent sur les batailles qu'elle a menées.
Maryse Condé était cette ironie souveraine contre toute fatalité, ce pouvoir d'imagination contre toute assignation, ce souffle puissant contre toute entrave.
Parmi les 300 invités, l'ex-ministre de la Justice, Christiane Taubira, elle se réjouit que l'hommage ait eu lieu dans la plus grande bibliothèque de France.
C'est le meilleur endroit, c'est le lieu de Maryse, c'est le lieu du livre, c'est son lieu à elle, quoi.
Un hommage national à Maryse Condé qui s'est achevé au son de la Marseillaise.
Allons, enfants!
Et on termine ce bulletin avec un point sur la météo de ce mardi en Australie. 31 degrés et du soleil aujourd'hui à Perth, soleil aussi à Adelaide où il fait 23 degrés, 19 degrés et quelques averses attendues à Melbourne, 22 degrés à Canberra et 25 à Sydney où le ciel est dégagé, 28 degrés à Brisbane où il fait beau également et idem à vrai dire à Darwin où il fera jusqu'à 35 degrés aujourd'hui.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.